franceinter.fr.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le récit d'un destin brisé, celui du cycliste britannique Tom Smithson qui trouva tragiquement la mort sur les pentes du Mont Ventoux lors du Tour de France 1967. Le Tour, cette compétition est une fête dans les années 60, plus encore qu'aujourd'hui peut-être. Une fête populaire sur les bords de route où l'on se rend en famille avec pique-nique et pastis pour encourager les vedettes. Poulidor, Gemignani, Anquetil. Une fête gratuite qu'on observe depuis les bas-côtés ou derrière un écran plutôt devant. Le public se masse alors devant la télé, dans les bars et les vitrines des magasins. Oui, c'est une fête folklorique avec ses symboles. Le maillot jaune, la caravane publicitaire, la voiture balai, les motos. C'est l'été. Et c'est justement en cet été 1967 qu'Anna Karina chante sous le soleil exactement, pendant que les vainqueurs paradent et que le public crie son bonheur avant d'aller danser dans les bals organisés par les villes étapes. Pourtant, le Tour peut être mortel. En 1967, alors qu'il gravit les pentes surchauffées du Mont Ventoux, Tom Simpson, le champion britannique, s'écroule. Ce sportif généreux, connu pour ses facéties et son grand sourire, meurt en direct devant les caméras de télé. La canicule et le relief aride du chaudron de l'enfer, comme on appelle le Ventoux, ont eu raison de Tommy, coqueluche des médias, showman attachant. Retour sur une lente et brûlante course vers la mort sur laquelle plane l'ombre du dopage. Notre invité aujourd'hui, ce sera Pierre Carré, journaliste spécialiste du cyclisme pour le journal Libération. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jeanne Maillard avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production Valérie Priolet, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle et Stéphane Ronxin. À la technique aujourd'hui, Sacha Trop.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
À peine 30 ans avant que les pentes du chaudron de l'enfer ne l'emportent, Tom Simpson naît à Aswell, un village minier du nord de l'Angleterre. Benjamin d'une fratrie de 6 enfants, fils de mineur, il grandit dans une modeste maison de briques rouges. La guerre et les privations qui marquent l'enfance de Tommy n'entachent pas sa joie de vivre. Le garçon, espiègle et enthousiaste, compte bien être heureux. Il veut réussir. Tommy lui-même le perçoit assez rapidement. Cette réussite passera par le vélo. À 12 ans, il monte pour la première fois sur une bicyclette. Une révélation. Deux roues, un guidon et une selle, autant de promesses d'évasion pour le jeune garçon qui fuit l'air pollué de la ville pour s'échapper dans les campagnes environnantes. Tom partage un vélo avec son frère et ses cousins avant de construire son propre engin en récupérant des morceaux ici et là. Très vite, le gamin gagne des compétitions locales, puis nationales. En 1956, parfait inconnu de 19 ans, il remporte une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Melbourne. Deux ans plus tard, lors des championnats du monde de poursuite, il crée la surprise en éjectant le tenant du titre en quart de finale. Mais Tom chute violemment lors de la demi-finale. La clavicule en miettes, la mâchoire brisée, il combat sa douleur et poursuit la compétition très péniblement. Le jeune homme perd, mais il l'a prouvé. Il est imbattant, tenace, acharné. Pour progresser, pour gagner, Simpson est prêt à se dépasser, quitte à prendre de folles décisions, y compris celles qui mettent sa santé en péril. Son entraîneur, Barry Foster, le décrira en ces termes presque prémonitoires. C'était une dynamite prête à exploser à tout moment. C'est vrai, Tom est un bâton de dynamite. C'est un champion en puissance. Mais l'Angleterre n'est pas à sa hauteur. Le cyclisme ne suscite pas les passions nationales et les structures sont insuffisantes. Lors des critériums nationaux, Tom est parfois le seul coureur à rouler avec des vitesses. Ses adversaires n'ont pas les mêmes ambitions que lui, le fils de mineur, le gamin qui se rêve riche et célèbre. Hiver 1959, Tom prend l'une de ses plus grandes décisions, traverser la Manche et passer professionnel. Avec 100 livres en poche, il débarque en Bretagne où il a signé une licence avec le club de Saint-Brieuc. Bingo, le risque paie. Ses progrès sont exponentiels. Lors du Paris-Roubaix 1960, il attire les regards par son audace. Pour éviter les pavés, il roule sur les trottoirs et s'offre une magnifique envolée. Malgré la fatigue, Tom accepte de répondre aux questions d'un journaliste.
Très fatigué.
Oui.
Vous pensiez gagner?
Oui.
C'est dommage. Pourquoi êtes-vous parti si tôt?
Ah, c'est 40 km, je pense. Je fais bien à 40 km.
Vous saviez que Sabadini et Serami revenaient sur vous?
Non, non. À 5 km de l'arrivée, j'ai cuit. J'avais mal à la face.
J'ai cuit, oui. Voyez-vous, Simpson a d'abord appris l'argot avant d'apprendre tout à fait le français, mais en tout cas, je dois vous signaler que l'homme que vous voyez devant vous est un très très grand coureur. Vous entendrez probablement encore parler de lui bien souvent.
Le journaliste a vu juste, Simpson enchaîne les victoires. Il gagne le Tour de Flandre en 1961, la classique Milan-San Remo en 1964, les championnats du monde et le Tour de Lombardie en 1965 et puis le Paris-Nice en 1967. Anobli par la reine Elisabeth, il suscite un engouement nouveau dans son pays. Les Anglais, fans de foot et de cricket, reviennent au cyclisme. Tommy, l'enfant du pays, est un héros national. En France également, on aime beaucoup Tom Simpson. C'est un beau garçon, au sourire lumineux et à la plaisanterie facile. La joie du peloton, comme le décrit son ami Roger Pinjon. Tom est apprécié de ses adversaires et du public, mais aussi des journalistes. Non seulement il joue le jeu des médias, avec simplicité et générosité, mais c'est un vrai trublion, chose rare chez les cyclistes d'ordinaire plutôt discrets. Lors d'un reportage télévisé, il interprète à la perfection son rôle anglais fantasque. Chapeau melon vissé sur le crâne, parapluie et costume en tweed, il raconte sa passion pour les voitures de collection. Son accent, son humour british et son humilité séduisent au-delà des frontières du chauvinisme sportif. Après les championnats du monde, c'est en toute modestie qu'il répond aux questions d'un journaliste.
Tom, je voudrais vous demander comment s'est passée cette première nuit de champion du monde.
Alors, j'avais pas beaucoup dormi parce que je pensais toujours au championnat, à l'avenir, que je dois porter un maillot champion du monde pour un an.
Oui, ça implique de nombreuses responsabilités.
Ah oui, parce que le couloir m'échappe un peu, que je dois maintenant être toujours en tête du peloton. Je dois faire mon travail comme un champion.
Pourquoi vous n'étiez pas en tête du peloton avant?
J'aime bien rigoler. Alors souvent on est en queue de peloton.
Tom Simpson enchaîne les courses, les autographes et les victoires retentissantes. Entouré de sa femme Hélène et de ses deux petites filles, il savoure sa revanche sur la vie. Mais le champion, bon père de famille, joyeux luron, ami fidèle et sportif généreux, a une face cachée. Car il veut la gloire et l'argent, toujours plus d'argent. Grâce au prix qu'il remporte, il investit dans l'immobilier avant de déménager en Belgique pour ne pas payer d'impôts. Simpson l'avoue sans phare, oui, il veut faire fortune. Afin de financer ses placements, il multiplie les courses, à l'excès, sans prendre le temps de se reposer. Et il prend des stimulants. C'est ce qu'il confie au journal anglais The People dès 1965. Ce coureur est imprévisible, c'est un cheval fougueux, capable de laisser son équipe derrière lui, malgré les indications de son entraîneur, pour avoir le plaisir d'arriver seul en haut d'un col, quitte à s'épuiser et à rater la prochaine course. La frénésie de Tom Simpson, sa déraison parfois, le rend imbattable sur les courtes distances. Mais il ne parvient pas à rester constant, lui qui aime aller vite et fort. Le Tour de France, ses milliers de kilomètres, il ne les a jamais apprivoisés. En tout, 6 participations, toujours douloureuses, même s'il est le premier Britannique à revêtir le maillot jaune en 1962. Pourtant, mais c'est le cas de tous les cyclistes ambitieux, le Tour de France, c'est le rêve de Tom Simpson, son objectif ultime.
Peut-être pas toujours en rose, mais je vois quand même que je dois pouvoir courir encore 5, 6, peut-être 7 ans. Alors je dois pouvoir, dans cet temps-là, réaliser encore un bon palmarès. Il n'y a pas de raison que je quitte le cyclisme avant ça.
Quelle est la course qui devrait vous assurer un plus grand avenir, une meilleure renommée?
Bien, si je pouvais faire encore un championnat du monde, ça serait formidable. Mais à mon avis, c'est le Tour de France qui peut faire un coureur quand on n'oublie jamais.
Été 67, Tom Simpson vient de gagner le Paris-Nice, la course du soleil. Une mise en jambe avant sa véritable cible, le Tour de France. Et il le sent, c'est pour cette année. Ce 13 juillet 1967, au départ de l'étape, il est 7e au classement général. Une place sur le podium est encore possible pour l'imprévisible Britannique. Mais l'édition 67 du Tour marque le retour des équipes nationales en lieu et place des équipes de marque. Ce rétablissement défavorise Simpson car ses coéquipiers ne sont pas au niveau. Les épreuves que la grande boucle impose aux coureurs, c'est souvent seul qu'il doit les affronter. L'épreuve de ce 13 juillet, c'est l'étape de la soif. 211 km entre Marseille et Carpentras, sous un soleil de plomb, sans ravitaillement en eau. Les théories médicales de l'époque le veulent ainsi. Les coureurs, déshydratés, devront se contenter des bidons que leur tend le public. Robert Chapat, qui commente le tour en direct, ne cesse de le remarquer. Les cyclistes meurent de soif.
Et cette image frappante de la canicule dans ce Tour de France, Roger Pinjon, qui a littéralement pris au vol un brodo et qui généreusement le tend maintenant pour les dernières gouttes à Roger, à Balmagnon, Franco Balmagnon. Ah, de l'eau fraîche, ce sera très rare maintenant sur le sommet. Heureusement qu'il y a un ravitaillement organisé par tous les supporters des coureurs et puis aussi par ceux qui sont des cyclosportifs qui n'ont pas hésité à escalader le Mont Ventoux ce matin.
Il fait 45 degrés au soleil. Et après 170 km d'une course caniculaire, surgit le Mont Ventoux. Le chaudron d'enfer, le géant de Provence, le Mont Chauve, 1912 mètres à son point culminant, 21 km de montée. Un paysage désolé, une côte tyrannique pour les cyclistes, des rocailles blanchâtres, une végétation rare et austère, pas d'ombre. Une fournaise que le Mistral gifle parfois très violemment. Le Ventoux est d'ailleurs et officiellement le lieu le plus venteux du monde. Un absurde calvaire, comme le décrira plus tard Lance Armstrong. Une légende que les cyclistes redoutent. Une légende noire. 12 ans plus tôt, en effet, un cycliste s'est heurté à l'exigence du Mont Ventoux. Lors du Tour de 1955, Jean Valéjac est retrouvé inconscient dans les cailloux, le corps secoué de spasmes. Ses pieds continuent à pédaler, tel un sordide automate. Le Ventoux, impitoyable et épuisant, est incroyablement difficile. L'étape est à l'image du reste de la Grande Boucle. Il n'admet aucune faiblesse, ce Tour de France. Plus importante épreuve du calendrier international, plus rude également. Les coureurs sont au maximum de leur capacité physique, à la limite du point de rupture. Alors chaque année, de dramatiques accidents comme celui de Malajac rappellent que le cyclisme est un sport brutal. Tom Simpson en a fait les frais, 6 éditions de suite. À chaque fois, il a été contraint de céder aux difficultés. Mais là, il ne doit pas abandonner. Or, le Britannique s'est blessé à la jambe en chutant dans les Alpes et il ne parvient pas à récupérer. À la souffrance physique s'ajoute aussi une crainte personnelle, ne pas parvenir à surmonter cette épreuve, être obligé de s'avouer vaincu, décevoir encore. Tom déprime. Épuisé, il s'alimente au compte-gouttes car son ventre ne supporte rien. Affaibli dans son corps et dans son esprit, comment le champion trouvera-t-il la force de défier le Mont Ventoux ? Pendant ce temps, le médecin du Tour, le docteur Dumas, s'inquiète. Il tire le signal d'alarme en déclarant au journal L'Équipe « Compte tenu de la chaleur, si les gars plongent le nez dans la topette, nous risquons d'avoir un mort sur les bras. » La topette, le baba, l'élixir, c'est le doping, comme on dit à l'époque. Ce 13 juillet 1967, au matin, Tom Simpson semble avoir repris du poil de la bête. Avant le départ, il plonge dans le port de Marseille, pour le plus grand bonheur des photographes. Son maillot blanc de champion du monde, brodé de l'Union Jack aux épaules, rappelle que Simpson est un grand sportif et qu'il est prêt à affronter les portes de l'enfer. Tout au long de l'étape, Tom est avec les hommes de tête. Le maillot jaune, Roger Pinjon, les Italiens Felice Gimondi et Franco Baldamione et le Néerlandais Jan Janssen. Arrivé à Bédouin, un village au pied du Mont Ventoux, on lui tend une bouteille d'alcool. Oui, de l'alcool. Cognac, whisky, pastis, les témoignages ne s'accordent pas. Mais une chose est sûre, Simpson, assoiffé, en boit de grandes rasades avant de repartir pour le dernier rush. Soudain, ses forces le trahissent. Il ne parvient pas à attaquer autant qu'il le souhaiterait. Alors il s'acharne, en vain. Les quatre coureurs du peloton finissent par le lâcher alors que d'autres cyclistes le rattrapent. Le commentateur, Robert Chapatte, continue lui de parler de la pluie et du beau temps, surtout du beau temps, car il n'a aucune idée de ce qui est en train de se nouer.
Je souhaite que les coureurs aient le même souffle d'air au sommet du Ventoux que celui qui nous rafraîchit quelque peu ici à Carpentras, car dès le départ de Marseille, c'était encore une journée caniculaire, et après celle que nous avions vécue hier, après celle qui fait que les coureurs s'inquiètent de leur maigreur stupéfiante et puis de leur manque de réserve maintenant, il serait tout de même agréable de connaître au moins une demi-journée de pluie. Je sais bien que tous ceux qui nous écoutent et qui sont en vacances ne partagent pas notre opinion, mais enfin. Alors là, voici avec ce groupe, Lucien Aymar, Van Kloster, Tom Simpson et sans doute le luxembourgeois Johnny Schleck.
La pente est de plus en plus abrupte, les roues du vélo de Simpson tournent de plus en plus lentement. Son visage livide est déformé par l'effort et la douleur. Le français Lucien Aymar, son ami, lui tend une bouteille d'eau, mais Tom ne répond pas. Ses yeux sont vides. À moins de 2 kilomètres du sommet, avant la descente libératrice vers Carpentras, il vacille. Et le voilà qui ne maîtrise plus sa trajectoire. Au ralenti, il chancelle à droite, puis à gauche, avant de s'écrouler. Le champion du monde n'est plus lui-même. Il demande à des spectateurs de l'aider à repartir. Alors on le remet en selle, on le pousse, on l'encourage. Mais 500 mètres plus loin, le cycliste s'arrête de nouveau. Appuyé sur son guidon, il est incapable de se mouvoir. Les caméras de RTF filment la scène, tandis que le public pétrifié observe le drame qui est en train de se jouer sous ses yeux.
Nous sommes à 3 km du sommet du Mont Ventoux. Et nous arrivons à la hauteur de Tom Simpson qui titube sur la route, aidé par des spectateurs qui veulent absolument le faire repartir, mais il en est incapable. Normand, le caméraman, et Damien, son motard, s'arrêtent et filment les derniers moments de Tom Simpson. Il est affalé sur sa machine, incapable d'une réaction, d'un geste. Alors on va l'étendre. Quelques instants plus tard, l'hélicoptère l'évacuera sur l'hôpital d'Avignon.
Les spectateurs allongent le corps inanimé des cyclistes sur les cailloux. Un spectateur tente un massage cardiaque, bientôt relayé par le docteur Dumas, le médecin du Tour. Malgré les massages, le bouche-à-bouche, puis le masque à oxygène, Simpson reste inconscient. Il est finalement évacué par hélicoptère jusqu'à l'hôpital d'Avignon. À 17h40, Félix Lévitan, le directeur du Tour, lit à la presse un communiqué du docteur Dumas. Tom Simpson est mort. Les journalistes, les coureurs et l'entourage de Simpson apprennent la nouvelle avec stupeur. Son directeur sportif, Gaston Plot, est anéanti. Au micro de France Inter, les mots lui manquent.
Oui, Roger, vous m'entendez ?
Oui, très très bien, très très bien.
Oui, je me trouve dans la chambre de Gaston Plot qui tourne en rond dans cette chambre. Il doit aller à l'hôpital d'Avignon, mais il retarde vraiment le moment d'y aller. C'est un instant pénible, mais ce n'est pas pour faire du sensationnel à tout prix. Je suis à côté de Gaston Plot, c'est simplement parce qu'il est son directeur sportif et parce qu'il est... C'est plus que son directeur sportif, Tom Simpson. C'était un ami pour vous, Gaston, hein, pour nous tous, hein.
Bien sûr, on a eu beaucoup de... Pas des accrochages de course, on peut dire, car Tom est un garçon très attachant.
Oui, Roger Cornet, bon, je crois que c'est inutile d'ailleurs de continuer comme ça.
Moi, écoutez, ouais. Je pense, le moment est trop pénible. D'ailleurs, j'en avais averti Jean Reynal dans le journal Parler. Je crois que nous avons tout dit à nos auditeurs. Le drame a suffisamment sa dimension à lui-même sans que nous ajoutions quelque chose. Et je demanderai à Jean Reynal de terminer cette triste journée en parlant avec Jean Robic.
Le soir de l'accident, les Français découvrent le drame à la télé, choqués. Le champion Tom Simpson, le pitre du peloton, l'enfant terrible du petit écran, n'est plus. Tandis que la France et le Royaume-Uni pleurent, le champion, des orages éclatent un peu partout dans le pays. La canicule qui brûle les terres et les hommes va bientôt prendre fin. Le lendemain, le 14 juillet, la mort de Tom Simpson est dans tous les esprits. Au départ de la 14e étape du Tour, la fête nationale laisse place au deuil. Les visages des coureurs et des spectateurs sont graves. Jacques Godet et Félix Lévitan, les organisateurs du Tour, sont au premier rang, accompagnés du maillot jaune Roger Pinjon et de Britanniques Hoban, Lewis et Edenson. Une minute de silence est observée avant le départ.
Vraiment, Tom, nous ne te verrons plus. Alors nous t'adressons un hommage. Tom, je suis très ému et nous t'adressons les coureurs, les journalistes, Maître Chartier, maire de Carpentras. Nous vous prions, mesdames, messieurs, d'observer une minute de silence.
Entre Carpentras et Sète, pas de course, mais un long défilé en hommage à Simpson. Barry Robin, le coéquipier et compagnon de chambre de Tom, couvre la fin de l'étape en solitaire, soutenu par une foule silencieuse. Le peloton, qui le suit, groupé, occupe toute la largeur de la route. À l'arrivée en pleurs, Robin remet le bouquet du vainqueur à Helen, la femme du défunt. Les journalistes qui sont sur les lieux captent l'émotion qui habite les coureurs. Gimondi, les yeux humides, révèle que Tom Simpson allait devenir son coéquipier. Tandis que Poulidor ne parvient pas à cacher sa peine.
Vraiment, comment était Simpson dans un peloton?
Simpson était vraiment un garçon très charmant et j'ai vraiment très de peine ici de parler de Simpson dans des circonstances aussi dramatiques. Je pense que Simpson sera regretté par tout le monde. Et moi, j'ai du mal à vraiment cacher mon chagrin.
Mais le refus du permis d'inhumer que le docteur Dumas a annoncé la veille interpelle. Si une enquête est ouverte, c'est qu'il ne s'agit pas d'une mort naturelle. Dans les cafés, au comptoir, on s'interroge. D'autant plus que des rumeurs circulent. Un tube de tonédron, une amphétamine, aurait été retrouvé dans la poche de Tom Simpson. Alors, deux camps se forment dans ce qui devient rapidement l'affaire Simpson. D'un côté, ceux qui n'hésitent pas à suggérer que Tom, comme à son habitude, avait consommé des stimulants lors de la funeste épreuve du Mont Ventoux. Et c'est le cas de Jacques Godet, directeur du Tour. Il s'exprime au micro de France Inter dès le soir du drame.
Les conséquences ne peuvent être connues que lorsque l'on connaîtra vraiment les causes de ce décès. Bien sûr, ce soir, nous croyons tous ici, je le crois moi-même, que ce décès est dû à l'utilisation par Tom Simpson de produits toxiques, de stimulants. Hélas, il semblait bien depuis plusieurs années que cet excellent coureur, ce champion, car c'était un champion, mais qui ne disposait sans doute pas des capacités organiques suffisantes pour pouvoir conduire à bien une course de la durée du Tour de France, que le champion utilisait des moyens stimulants. Nous l'avons vu déjà dans de nombreuses autres épreuves, avoir un visage décomposé, se conduire d'une manière qui était étrange. Et par conséquent, ce coureur qui, par conséquent, devait moins bien assimiler ces produits que d'autres ne le font, hélas, car ceux qui assimilent mieux ont une propension à continuer à utiliser ces sortes de produits, je crains que Tom Simpson, par conséquent, effectivement, n'ait utilisé aujourd'hui, pour ce Ventoux qu'il redoutait, des produits de ce genre.
D'autres refusent toute forme d'accusation, soit parce qu'ils défendent aveuglément le champion, pourtant consommateur autoproclamé de produits dopants, soit parce qu'ils respectent la présomption d'innocence et attendent le résultat d'autopsie. Sur ce point, le docteur Pierre Dumas s'exprime au micro de Daniel Potra.
On a parlé de doping.
Je pense que c'est absolument anormal de parler de doping avant que tout soit fait. C'est absolument anormal. Je pense que c'est pas honnête d'en parler comme ça. Et on ne peut pas accuser un garçon ou ce qu'il aurait fait sans savoir.
Est-ce qu'on a retrouvé quelque chose sur lui, par exemple, qui aurait pu faire prononcer ce mot?
À partir du moment où la justice est déclenchée, je suis un témoin maintenant. Donc moi, je ne peux plus rien dire. Ça ne regarde plus personne que le procureur ou le juge d'instruction. Alors, il ne faut pas, parce qu'une action judiciaire est déclenchée, dire elle est déclenchée parce qu'il y a la substitution de dopine, absolument pas. Elle est déclenchée parce que c'est tout de même anormal quand on voit un garçon jeune mourir en essayant de faire tout ce qu'on a pu. Il n'est pas possible de laisser ça là, et puis c'est tout. Mais ça ne veut pas dire qu'il était dopé, on n'en sait rien du tout. Il a pu mourir d'un infarctus, d'une hémorragie méningée, j'en sais rien, moi.
Il allait avoir 30 ans et il était marié, père de deux petites filles.
Cinq jours après la mort de Tom Simpson, le rapport d'autopsie de l'hôpital d'Avignon est rendu public. Et voici ce qu'il dit. Le décès est dû à un collapsus cardiaque imputable à un syndrome d'épuisement dans l'installation duquel ont pu jouer certaines conditions atmosphériques défavorables, un surmenage intense et l'usage d'amphétamines. Comme beaucoup le soupçonnaient, Simpson, le champion du monde en titre, a bien consommé les stimulants avant d'affronter le Mont Ventoux. Les experts précisent que la dose ingérée par le coureur n'a pas, elle seule, provoqué la mort. Mais le constat est sans appel. Les amphétamines suppriment la sensation naturelle de fatigue et poussent vers l'effort excessif. Elles favorisent donc les accidents cardiovasculaires, tout en influençant négativement les fonctions physiologiques et psychologiques. Tous les experts s'accordent, le tonédron associé à la chaleur, à l'effort, à la fatigue et à l'alcool a joué un rôle certain et néfaste. Pourtant, un autre médecin du Tour, Philippe Decour, rejette la responsabilité sur le docteur Dumas. Il lui reproche notamment de ne pas avoir administré à Simpson le traitement adéquat, à savoir une piqûre de Maxiton qui aurait relancé le cœur. Par ailleurs, il décrit publiquement les amphétamines comme des médicaments remarquablement peu toxiques. Or, ce professeur Decour est un médecin multicasquette. Quand il ne travaille pas sur le Tour de France, il conseille le groupe pharmaceutique Rhône-Poulenc. Il a même conçu avec lui l'amphétamine, l'orthédrine. D'autres voix s'élèvent pour blanchir Tom Simpson ou minimiser les dangers du doping, comme on disait alors. Robert Chapat, l'ancien patron des services des sports d'Antenne 2, ainsi que des cyclistes de renom comme Jacques Anquetil ou Raphaël Geminiani, affirment que les amphétamines sont inoffensives. La preuve, la femme de Simpson, Hélène, a touché l'assurance vie de son mari. Alors si Tom était mort à cause du dopage, l'assurance aurait plaidé le suicide et refusé de payer. Si certains, et notamment les coureurs, défendent des amphétamines, c'est que eux aussi consomment des stimulants. Le dopage ou la bomba, comme l'appelle le mythique Fausto Coppi, est monnaie courante dans le monde du cyclisme, on le sait. Marcel Bidot, le directeur technique de l'équipe de France entre 1952 et 1968, affirme que les trois quarts des coureurs se chargent comme des mules, selon le jargon. Dans une émission intitulée « Les coulisses de l'exploit », diffusée en 1962, voilà comment les coureurs cyclistes abordent la question des stimulants.
Et qu'est-ce que ça veut dire saler la soupe?
Saler la soupe, c'est compliqué à expliquer aussi, justement. Saler la soupe, là ça veut dire beaucoup de choses aussi là.
On dit saler la soupe, on dit charger la chaudière, etc.
Et charger la chaudière, qu'est-ce que cela veut dire?
Ah, ça c'est un terme cycliste qui court en ce moment à peu près comme dans toutes les branches de la vie, je crois bien.
Et à mon avis, on peut considérer ça comme un secret professionnel.
Jacques Anquetil, qu'est-ce que cela veut dire saler la soupe?
Saler la soupe? Mais quel moment a-t-on employé cette expression?
C'est une expression d'argot du Tour.
Je n'ai pas tellement entendu ça dans le Tour de France.
Un coureur qui marche pas trop d'habitude, du jour au lendemain, s'il se met avec la boussole, on dit tiens, il a dû saler la soupe celui-là.
Saler la soupe? Ah, ça c'est une expression, c'est difficile à parler avec ça à la télévision, mais enfin, c'est quand on met la dose dans le petit bidon, quoi.
Par ici la bonne soupe, le dopage existe depuis les premières courses cyclistes dès la fin du 19e siècle. Stimulants, excitants, morphine, cocaïne, amphétamine, le vocabulaire et les produits changent, mais le recours aux artifices persiste. Il y a même eu des drames, bien avant le 13 juillet 1967. Des hommes sont morts, comme le Danois Janssen au JO de Rome de 1960. Le coureur, victime d'un coup de chaleur, avait consommé des amphétamines. D'autres se sont gravement blessés, tel Roger Rivière, qui sort paralysé d'un accident la même année. Entraîné par la vitesse, le corps engourdi par de puissants analgésiques, il chute violemment dans la descente du col de Perjuret. Autant de drames qui convainquent le docteur Dumas de s'engager dans la lutte antidopage avant même le décès de Simpson. En 1965, il inspire la loi Herzog. Les stimulants sont désormais interdits pendant les compétitions et les entraînements sportifs. Mais cette loi ne sera pas appliquée. Les cyclistes, bien qu'ils nient saler la soupe, rechignent à se soumettre au contrôle antidopage organisé lors du Tour de France 1966. Après un contrôle surprise à Bordeaux, ils déclenchent la première grève de l'histoire du cyclisme. En pleine étape, ils mettent pied à terre en signe de protestation et parcourent une centaine de mètres, bicyclette à la main. Pour eux, il s'agit de défendre leur liberté, de protéger leur intimité. les organisateurs du tour, qui veulent avant tout assurer le spectacle, n'interviennent pas. Mais la mort de Tom Simpson va changer la donne. Non seulement l'homme est une figure bien connue du cyclisme, mais le drame survenu lors de la plus grande course du monde a été retransmis en direct à la télé, et les Français sont choqués. Désormais, le dopage n'est plus seulement une question d'éthique, il est devenu une affaire de vie ou de mort. Le 13 juillet 1967 fait office de détonateur. L'année suivante, la grande boucle est proclamée Tour de la Santé par les organisateurs. La rupture se veut radicale. Symboliquement, le tour débute dans la ville de Vittel, tandis que le ravitaillement en eau est autorisé. Enfin, le tour offrira aux coureurs la possibilité de s'hydrater. En proposant des points d'eau officiels, les organisateurs espèrent priver les cyclistes de leur excuse favorite. Si les analyses d'un coureur révèlent la présence d'amphétamines, c'est parce qu'il a bu dans la bouteille tendue par un spectateur mal intentionné, ben voyons. Un contrôle obligatoire est donc organisé à l'arrivée de chaque étape, comme l'ont voulu Lévitant et Godet, les organisateurs de la course.
Nous avons été, je pense, les premiers à vouloir que le sport cycliste soit débarrassé de ce fléau. Nous pensons que cette lutte doit prendre un aspect nouveau, c'est-à-dire que la lutte doit être entreprise d'accord avec les intéressés. Plus qu'une lutte, ce sera une œuvre de persuasion et d'éducation. Le docteur Dumas s'y est attaché ainsi, et nous-mêmes, nous considérons que le temps est venu où le coureur et celui qui se trouve près de lui, son directeur sportif, doivent comprendre que si on les replace tous à égalité de moyens, c'est-à-dire qu'on les replace tous comme des athlètes qui n'appellent pas à des moyens extérieurs les ressources dont ils ont besoin, alors tout doit recommencer dans le meilleur esprit. Et nous avons le sentiment que les coureurs, après tout, sont assez anxieux de pouvoir se projeter contre eux-mêmes. Ils ne demandent qu'une chose, c'est d'être certains que ce qu'ils ne feront pas ne sera pas fait non plus par leurs concurrents.
Le Tour de France 1968, ce tour à l'eau minérale, comme certains l'appellent, devient donc un modèle pour d'autres compétitions. Un an plus tard, les contrôles sont rendus obligatoires par le Comité Olympique aux JO de Mexico. La bataille contre le dopage, une bataille sans fin, ne fait que commencer. Paul Antier, Delgado, Festina, Armstrong comptent alors. L'histoire du dopage cycliste a connu bien d'autres rebondissements. Tom Simpson, lui, est resté dans les esprits comme le triste symbole de ce fléau. Pourtant, le coureur mérite qu'on se souvienne de lui autrement. C'est ce que rappelle la stèle installée en son honneur sur les pentes diaboliques du Mont Ventoux. Brûlé par le soleil de Provence, fouetté par le Mistral, le bloc de granit qui évoque l'ombre du coureur dans l'effort, célèbre l'athlète, oui, le champion. Car Tom Simpson était un grand sportif, mais surtout un homme généreux, prêt à tout pour faire rêver le public et combler sa famille. Au pied de la stèle, une plaque en cuivre signée Joanne et Jane, les filles de Tom. Et puis, comme sur un autel païen, des offrandes, des casquettes de cyclistes, des roues de vélo, des gourdes en plastique, une selle, des bouteilles d'alcool. Autant d'hommages émus qui rappellent qu'ici, un homme a trouvé la mort. Il s'appelait Tom Simpson et il allait avoir 30 ans. « Cycling is my life. Le vélo est ma vie », aimait-il à répéter. Il sera aussi sa mort.
C'était le 4 juin, le soleil tapait depuis le matin. Je m'occupais de la vigne et mon frère chargeait le foin. Et l'heure du déjeuner venue, on est retourné à la maison. Et notre mère a crié de la cuisine, essuyez vos pieds sur le paillasson. Puis elle nous dit qu'elle avait des nouvelles de Bourg-les-Essonne. Ce matin, Marie-Jeanne Guillaume s'est jetée du pont de la Garonne. Père dit à ma mère en nous passant le plat de gratin. La Marie-Jeanne, elle n'était pas très maligne, passe-moi donc le pain. Y a bien encore 2 hectares à labourer dans le champ de la canne. Et maman dit, tu vois, quand j'y pense, c'est quand même bête pour cette pauvre Marie-Jeanne. Qu'il n'arrive jamais rien de bon à Bourg-les-Essonnes. Et qu'aujourd'hui, Marie-Jeanne s'est jetée du pont de la gare. Toute une année est passée, on ne parle plus du tout de Marie-Jeanne. Mon frère qui s'est marié a pris un magasin avec sa femme. La grippe est venue par chez nous et mon père en est mort en janvier. Depuis, maman n'a plus envie de faire grand-chose, elle est toujours fatiguée. Et moi, de temps en temps, je vais ramasser quelques fleurs du côté des Essonnes. Et je les jette dans les eaux boueuses du haut du pont de la gare.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la mort de Tom Simpson dans le Mont Ventoux le 13 juillet 1967. Notre invité, Pierre Carret, bonjour.
Bonjour.
Journaliste spécialiste du cyclisme pour le journal Libération. Vous êtes évidemment passionné de ce sport que vous connaissez comme votre poche. On va reparler de Tom Simpson, bien sûr. On va parler aussi du Tour de France, on va parler du cyclisme en général et du dopage. Je voudrais qu'on commence par écouter ensemble, partageons cela avec les auditeurs, Roland Barthes, dans Mythologie, il analyse ce qui fait du Tour de France une mythologie, avec ses récits et ses héros, le vocabulaire, l'histoire des champions, la géographie, la stratégie de la course. Écoutons ces mots.
Je crois que le Tour est le meilleur exemple que nous ayons jamais rencontré d'un mythe total, donc ambigu. Le Tour est à la fois un mythe d'expression et un mythe de projection, réaliste et utopique, tout en même temps. Ce qui est vicié dans le Tour, c'est la base, les mobiles économiques, le profit ultime de l'épreuve, générateur d'alibis idéologiques. Ceci n'empêche pas le Tour d'être un fait national fascinant, dans la mesure où l'épopée exprime ce moment fragile de l'histoire, où l'homme, même maladroit, dupé, à travers des fables impures, prévoit tout de même, à sa façon, une adéquation parfaite entre lui, la communauté et l'univers.
Voilà, quand Roland Barthes prend la parole, c'est jamais pour dire des bêtises. Hein. Vous êtes d'accord avec tout ça?
Oui, il n'y a pas une virgule à retrancher un demi-siècle plus tard. Ouais. Fait social, absolument. Mythe total aussi. Et puis, duplicité, appât du gain, qui bien sûr, essentiellement du côté des organisateurs. Tout ça, c'est vrai.
Alors, pourquoi plus que n'importe quelle autre course, le Tour de France est de l'ordre du mythe et de l'épopée, justement?
Si on placer le Tour de France au mois de juin ou au mois d'avril, peut-être que le Tour de France ne rimerait plus vraiment avec les vacances.
Déjà.
Le phénomène du Tour vraiment éclate au moment des congés payés. Et puis, c'est bien avant cela, dès sa création en 1903, justement la perpétuation d'une odyssée. Au début, il est créé par la presse écrite qui parfois, à l'époque, proposait plusieurs éditions par jour. Et donc, on vit un authentique feuilleton. Et une odyssée vraie, l'odyssée des gens de vos campagnes, finalement, peut-être de votre serrurier, de votre paysan, de votre boulanger, qui à l'époque faisait profession de cycliste, souvent gagnaient fort mal leur vie, mais prenaient des risques insensés. Il faut se rappeler quand même des routes qui n'étaient pas goudronnées, des distances qui étaient hallucinantes. Et même si aujourd'hui on a beaucoup édulcoré, évidemment, cette difficulté quasiment physique, le Tour de France est resté un espace de douleur et qui est tout à fait fascinant. Parce qu'on vient aussi chacun à la fois y déposer et y prendre ce qu'on a envie d'y voir.
Alors, il y a tout de même le Giro en Italie, la Vuelta en Espagne, mais est-ce que le Tour de France serait au cyclisme ce que Wimbledon est au tennis? Vraiment le grand rendez-vous mondial d'un point de vue, alors, pour le coup, sportif. Quand on est un champion cycliste, est-ce qu'on veut gagner d'abord et avant tout le Tour de France?
Oui, aujourd'hui, oui, c'est l'événement annuel sportif le plus grand. Les JO sont évidemment le cran au-dessus, mais se déroulent tous les 4 ans. Le Tour, du point de vue médiatique, c'est la concentration de tous les regards une fois par an.
Alors évidemment, pour qu'il y ait fête, sport, engouement. Il faut un casting aussi. C'est-à-dire qu'il faut des personnages. Les héros du Tour de France sont devenus éphémères, déclarait Eric Fotorino, l'ancien directeur du Monde et un passionné de cyclisme. D'où ma question. Y a-t-il encore des héros du Tour, comme ceux qu'on a connus dans les années, ni vous ni moi, mais bon, 50 ou 60, genre Fausto Coppi, Poulidor, Eddy Merckx. Eddy Merckx, on a connu quand même. Poulidor aussi un peu.
Il y en a encore, bien sûr, il y en a même plein, mais souvent ils ne sont pas connus et ils sont pas ou mal racontés. C'est en bonne partie leur faute parce que les cyclistes ont sacrifié à la grande mode communicationnelle, Twitter, Facebook, ils sont aujourd'hui entourés d'attachés de presse. On imagine quand même assez mal un Anquetil esprit libre, un Coppi, bon, qu'on a parfois comparé à un ange, mais qui était quand même avant tout un homme, avec ses vices et vertus. On imagine assez mal ces champions d'autrefois complètement passer à la moulinette et réduit par des tweets en 140 caractères. Donc forcément, il y a une part de poésie qui est partie. Mais il existe bien sûr des coureurs extraordinaires. Le destin d'un Christopher Froome qui est le vainqueur sortant du Tour de France et qui est candidat dans 15 jours à une nouvelle victoire est une très très belle histoire de ce coureur né au Kenya. Thibaut Pinot, le coureur franc-comtois qui vit au milieu de ses moutons. On a eu l'occasion d'en parler dans Libération il y a quelques temps. C'est un coureur qui est tout à fait attachant, qui est atypique. On trouve encore, à la mesure de notre époque, des coureurs tout à fait fascinants.
Alors, il y a aussi, on parle de casting, mais dans le Tour de France, il y a aussi des sites, des lieux, le Col d'Aspin, le Galibier, l'Alpe d'Huez, le Mont Ventoux. Il y a aussi le Tour de France, il a ses rendez-vous physiques, de géographie physique aussi.
Ah ben oui, le Mont Ventoux, c'est, vous l'avez très bien expliqué dans ce récit, un lieu complètement mythique. Et il faut dire qu'à ce stade, la mort de Simpson vient consacrer ce lieu. Alors il y a toute une littérature autour du Ventoux, plus tard qu'en parle, parce que c'est cette impression quand même qu'on est en pleine. Tout d'un coup, on voit ce qui s'appelle aussi le géant de Provence qui se dresse devant nous. Ouais. Des phénomènes météorologiques tout à fait curieux. Il peut faire très chaud en bas et puis grêler en haut. Il peut neiger en haut. Il peut aussi avoir cette espèce de vent décoiffant qui fait que l'année dernière, l'étape a été abrégée et s'est terminée au niveau du chalet Reynard. Étape folle, Fabrice. Christopher Froome et termine avec son vélo, mais entre-temps, il se retrouve à courir à pied. On est quand même rarement déçu par ce spectacle du Mont Ventoux, qui est aussi dans un lieu un peu fou, un lieu un petit peu lunaire, un fracas de cailloux. On se croit davantage sous la Lune que sur la Terre.
Et il a aussi ses cruautés, le Tour de France, comme beaucoup de sports de compétition et de vitesse. La chance ou la malchance joue un rôle important. On se souvient de Luis Ocaña, par exemple, ce coureur espagnol qui allait enfin détrôner Merckx. On avait marre de voir Merckx gagner les tours les uns après les autres et puis qui chute. Il y a Poulidor aussi. Il y a ce sport-là a un côté cruel.
Hein. Oui, cruel parce qu'effectivement, on paye assez vite de son sang. Simpson n'est pas le premier coureur en réalité à mourir sur les routes du Tour de France, ni le dernier. Mmh. Il y en a eu un autre après lui dont la mémoire a davantage conservé le nom parce que c'est très récent. C'était Casartelli.
L'Italien là, qui est tombé.
Oui, tout à fait. Il tombe, il se tue. Donc ça, on allait dire c'est un accident, malheureusement, inhérent au risque du métier. Mais avant Simpson, il y avait déjà eu deux coureurs. Le premier, c'était en 1910, un dénommé Adolphe Hélière. Alors lui, il meurt sur le Tour de France, mais pas pendant le Tour de France. On est simplement une journée de repos, il veut aller se rafraîchir, il fait une insolation, une hydrocution, pardon. Par contre, dans les années 30, on a la mort de Cepeda. Alors Cepeda, c'est un Espagnol qui se tue simplement parce que son vélo, à l'époque, n'était pas finalement bien équipé. Donc on comprend que les coureurs risquent de payer de leur vie.
Et quel est votre regard sur le drame particulier de Tom Simpson? C'est le plus connu. Alors j'ai cru comprendre, je n'y étais pas à l'époque, hein, mais que c'était un coureur très attachant en plus. Est-ce que c'était un grand coureur? Est-ce qu'il aurait pu gagner des Tours de France et faire une très grande carrière?
C'est un coureur
bon, champion du monde déjà, c'est pas mal. Mais...
Absolument, c'est un coureur de course d'un jour, ça c'est indubitable, coureur de classique. Vous l'avez rappelé, au matin de sa mort, il était encore 7e du classement général. Et là où on voit la tragédie ultime que constitue l'affaire Simpson, c'est que il y a la mythologie Tour de France et il y a une mythologie Simpson, les deux s'alimentent. On avait dit à Simpson, si tu termines dans les 5 premiers cette année-là, tu auras à la fin de l'année un contrat dans une grande équipe italienne et tu auras un contrat très bien payé. Simpson est quelqu'un, vous l'avez rappelé, qui aime l'argent. Il va se dépasser. Donc il y a l'idée du dépassement. Et puis il y a ce qui paraît tout à fait insupportable, une espèce de chape de plomb qui va tomber. Or, il y a eu à chaud des personnes qui ont osé parler. Mais vous savez, l'ASO, l'organisateur du Tour de France, aujourd'hui ne célèbre ne commémore plus la mort de Tom Simpson. En 87, on a encore 20 ans après la mort de Simpson, l'organisateur du tour, Jacques Godet, qui va remettre une gerbe sur la stèle de Tom Simpson. Et depuis lors, surtout dans cette époque que nous vivons, qui est une époque d'un déni relatif, eh bien, on ne parle plus de Simpson, c'est terminé. Donc, il y a vraiment une espèce d'impression d'injustice. C'est quelqu'un qui va payer ce que d'autres auraient pu payer en son temps. Et attention, des morts des amphétamines et du dopage, là aussi, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Ni des accidents. Maléja, que vous citez en 55, c'est probablement au Mont Ventoux, déjà. C'est probablement, évidemment, un accident du dopage. En 62, quand Simpson prend le maillot jaune... le surlendemain, beaucoup de coureurs abandonnent et parfois des équipes entières. L'excuse, du poisson pas frais. Bon, en réalité, c'est plutôt du poison pas frais parce qu'il s'était certainement déjà dopé aux amphétamines. Et puis par la suite, ça continuera. Vous savez, avec les amphétamines, il y aura quand même des suicides. Il y aura des coureurs qui deviendront fous, des coureurs qui, sur leur vie civile, rouleront avec des voitures à pleine vitesse sur la gauche de la route. Il y a eu des accidents. Les amphétamines, c'était la mort. Et pour tous ceux qui pensent que le dopage, finalement, est subalterne, c'est une question qui est consubstantielle au vélo et qu'on peut tout à fait, sinon, comprendre. Et c'est une nécessité de comprendre, mais en tout cas tout à fait excusé, eh bien il faut rappeler que le dopage aussi tue.
Alors justement, Simpson est mort, on dit, on semble retenir l'hypothèse selon laquelle il est mort à cause du doping, comme on disait à l'époque, mais est-ce que c'est un élément parmi d'autres? Parce qu'il y a peut-être l'effort mal géré, il y a les conditions météo pas possibles, trop de risques peut-être, trop de risques physiques. Quelle part tient le dopage dans cette mort?
Vous avez raison, c'est un ensemble de facteurs, et c'est d'ailleurs ce que dit le rapport d'autopsie. On pourrait y ajouter la déshydratation. À cette époque, aussi incroyable que cela puisse paraître, on recommandait aux cyclistes de ne jamais boire, parce que quand on boit, on entretient la soif. Les cyclistes allaient jusqu'à croquer des pastilles de sel qui activent la soif. Mais à l'époque, on leur disait que c'était le contraire. La pastille de sel va vous couper l'envie de boire. Donc les coureurs sont totalement assoiffés. Donc vous l'avez rappelé, Simpson consomme de l'alcool, probablement du cognac au pied du Ventoux.
Oui, il y a l'alcool aussi, ça c'est
l'alcool,
important.
L'alcool qui active la soif. Il fait très chaud ce jour-là. Et puis, bon voilà, à l'arrivée, on a ce collapsus cardiaque. Mais j'avais rencontré un ami de Simpson de l'époque, témoin oculaire bien évidemment puisqu'il participait au Tour de France et qui avait dit « Attention, si c'était seulement les amphétamines, ce jour-là, on serait tous morts.
» Alors, dopage, cyclisme, et ça devient lassant. On aimerait tellement pouvoir parler de cyclisme sans parler du dopage. Il y a du dopage dans d'autres sports, beaucoup ont été épinglés dans d'autres sports. Il semble qu'il y en ait quand même beaucoup plus dans le cyclisme. Ça vient d'où? Du fait que c'est un sport de souffrance, c'est ça, qui fait qu'il y a plus de dopage dans le cyclisme qu'ailleurs?
Depuis les débuts, le cyclisme frais avec les soigneurs, les guérisseurs, des gens que l'on retrouvait aussi bien dans le milieu des courses hippiques, par exemple. Beaucoup plus récemment, on a vu la figure un peu étonnante de ce docteur Mabuse, qui lui-même intervenait à la fois dans le vélo et avec les chevaux. Il se trouve qu'au début, le vélo était quand même le sport numéro 1 en France, loin devant le foot. Les courbes s'inversent à peu près dans les années 60. Après, le cyclisme est très associé au dopage, et c'est un fait, mais c'est aussi le sport dans lequel on sait qu'il y a du dopage, dans lequel on parle de dopage.
Donc il y aurait une culture du dopage, on peut aller jusque-là?
En tout cas, maintenant, il y a une connaissance. La culture, c'est certain, même si petit à petit on essaie de s'en débarrasser, il y a un changement de culture depuis à peu près une dizaine d'années, c'est très récent et ça prend beaucoup de temps. Mais les autres sports n'en sont pas exempts. Il y a énormément d'affaires qui concernent aussi le football. Le PO, pour autant que je sache, a d'abord été développé par les skieurs de fond dans les pays scandinaves. Elle est passée ensuite dans les Pays-Bas en vélo et en Italie en vélo, mais pas directement en Italie. Elle est d'abord passée par le calcio.
Donc le foot?
Eh bien, le foot.
Calcio, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire football en italien. Alors, on a vu tout à l'heure dans le récit, après la mort de Tom Simpson, il y a eu une vraie polémique avec les pour, avec les contre, si je puis dire, les défenseurs de la lutte contre le dopage, puis il y a ceux qui minimisent ces dangers. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui, ça?
Bah oui, bien sûr, mais par contre, ils ne s'expriment pas de la même manière. Et aujourd'hui, il faut dire que là où le paradigme a un petit peu changé, c'est que ceux qui ouvrent leur bouche le plus fort, ce sont ceux qui sont contre. Alors, parmi eux, attention, il faudrait aussi faire un distinguo. Il y a ceux qui disent qu'ils sont contre mais qui en réalité sont pour, et puis il y a ceux qui sont contre et sont réellement contre. Jusqu'à une époque assez récente, le discours dominant dans le vélo, c'était tout le monde fait ça, donc évidemment, bon, c'est partout où tout le monde fait ça, allez-y mes amis. Et puis, mais enfin, vous n'y connaissez rien. Il y a vraiment une liste à peu près d'une dizaine, vous voyez, d'arguments qui reviennent tout le temps. Ce sont des professionnels, laissons-les faire, ce n'est pas si dangereux. Il y en a qui sont dans le déni, qui expliquent qu'après tout, il vaut mieux se doper plutôt que de ne pas se doper, parce que si on se dope pas, on prendrait des risques risques pour sa santé, d'épuisement. Et puis, il y a tous ceux qui, à l'époque, n'appellent pas ça dopage. Simpson lui-même, il est interviewé, vous savez, dans les années 60. Ouais. Et plusieurs fois, il emploie le mot. Il dit « Ah non, moi, je prends pas de produits dopants, je prends des toniques. »
Bah voyons. Est-ce que l'affaire Lance Armstrong déchu, le roi déchu quand même, et rétrospectivement en plus, est-ce que ça a été un tournant dans l'histoire du dopage, dans le cyclisme? Est-ce que ça va faire école? Est-ce qu'il y a un avant Armstrong et un après?
Oui, et à plusieurs niveaux. En réalité, quand Armstrong revient, parce qu'il a pris une première retraite en fin 2005, et alors il revient en 2006-2007, attendez, je calcule, il revient en 2009 sur le Tour. Mm-hmm. Et alors à ce moment-là, il se trouve qu'il y a une toute nouvelle période qui s'est ouverte et dans laquelle nous nous trouvons toujours, qui est, on parle beaucoup moins de dopage. C'est paradoxal. C'est-à-dire que, en fait, Armstrong, il arrive juste après l'affaire Festina. Alors, l'affaire Festina, elle ouvre les vannes. On ne parle de dopage que de dopage. Vélo égale dopage. Avant, le dopage n'existait pas. Depuis 98, on ne parle que de ça. Et Armstrong, il évolue dans cette époque tout à fait trouble. Et bizarrement, quand il est revenu, parce qu'il avait un côté un peu parrain, hein, à ce moment-là, toute la machine, alors, avec les médias spécialisés, avec les organisateurs, avec les gens du milieu cycliste, ont cessé de parler de dopage. Et la révélation du cas Armstrong, puisqu'il est passé aux aveux, n'a pas beaucoup changé. On est toujours dans cette époque flottante, un petit peu, où le dopage, on en parle moins, Simpson, on s'en fout. Mais par contre, ce qui est beaucoup plus intéressant dans le même temps, on va dire pour la santé publique, n'est-ce pas, et pour l'intégrité sportive et éthique du vélo, c'est que, c'est vrai, le peloton se dope beaucoup moins, avec des doses beaucoup moins prononcées, beaucoup moins souvent, et il y a beaucoup moins de cyclistes qui en consomment.
Il nous reste 1 minute 15 pour parler du Tour de France qui arrive, hein, dans quoi, 15 jours, 15-16 jours. Tour de France 2017, comment? Alors là, je m'adresse aux spécialistes cyclistes et puis à tous nos auditeurs qui écoutent l'affaire sensible et dont certains aiment probablement le cyclisme. Comment ça se présente, ce Tour de France? Est-ce qu'elle est excitante, cette édition 2017?
Ouais, c'est bien. Il y aura finalement les massifs intermédiaires qui vont jouer. Ça va pas seulement être dans les Alpes et les Pyrénées. Est-ce qu'on va avoir l'espèce de revanche de Romain Bardet, le coureur clermontois qui l'an dernier termine deuxième face à Christopher Froome qui, part toujours avec une longueur d'avance? Est-ce que Nairo Quintana, le Colombien, aura récupéré du Tour d'Italie? Il y aura évidemment des bons moments. 3 semaines, c'est un feuilleton à déguster sur la plage.
Le Giro, c'est le hors-d'œuvre du Tour de France? C'est le grand hors-d'œuvre?
Oui, c'est un beau hors-d'œuvre. Attention, c'est une course qui commence à... qui a aussi généré sa mythologie. Dino Buzzati a écrit sur le Tour d'Italie. C'est une course très très belle aussi. Hein.
Bien, merci Pierre Carré. Vous souhaite beaucoup de plaisir pour la couverture de ce Tour de France, hein, une fois par an pour vous. J'imagine que c'est un événement, évidemment, pour un spécialiste cycliste.
Ouais,
le mois de juillet professionnel, c'est quelque chose. Merci beaucoup Pierre Carré.
Merci.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la mort de Tom Simpson, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons un épisode peu connu mais fascinant de bombes nucléaires qui ont traîné dans la nature en Espagne. Enfin bon, je résume, hein, bien sûr. C'était en 1966. Si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter demain entre 15h et 16h.